Vous écoutez RTL. RTL Midi, édition spéciale. Julien Cellier, Christelle Robière.
Bonjour, bienvenue dans RTL Midi. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour une édition spéciale consacrée à la femme politique la plus populaire de notre pays. Un repère et une conscience qui vient de s'éteindre.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Simone Veil, vous avez reconnu sa voix avec 89 ans. Ce combat pour légaliser l'avortement restera comme le marqueur de cette femme droite déterminée dont la vie a été marquée par la Shoah. Rescapée d'Auschwitz avec sa sœur, elle a aussi milité toute sa vie pour la construction européenne jusqu'à être présidente du Parlement européen en 1979. Cette femme hors du commun avait aussi été élue à l'Académie française en 2008 au Conseil constitutionnel et elle était respectée par l'ensemble de la classe politique.
Emmanuel Macron exprime d'ailleurs ce matin sur Twitter ses condoléances à sa famille. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes qui y trouveront le meilleur de la France, écrit le chef de l'État. Édouard Philippe, lui, salue le visage d'une République debout, humaine, généreuse. Nous allons rendre hommage, bien entendu, à Simone Veil tout au long de cette édition spéciale avec des témoignages, des invités nombreux, ses confidences aussi et vos hommages au 3210. Vous prendrez la parole comme chaque jour. Mais tout de suite, écoutez comment elle résumait sa vie, Simone Veil. C'était en janvier 2010. C'était sur RTL lors d'un échange avec de jeunes autistes.
Je voulais poser une question sur comment vous êtes déportée, en quelle année?
C'est en 1944 que j'ai été arrêtée, déportée, que presque toute ma famille a disparu. Ma famille n'est pas rentrée et j'ai cependant toujours souhaité que nous nous réconcilions avec les Allemands. Les guerres sont les pires des malheurs.
Je vais te dire un truc. T'es 82 ans, tu vas bientôt les fêter.
Oui. On peut mourir du jour à l'autre.
Simone, tu vas nous manquer.
Simone Veil qui se racontait, c'était à l'occasion de la journée spéciale Radio Papotin.
C'est vraiment son engagement presque physique en 1974 pour faire voter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse qui a rendu Simone Veil populaire dans notre pays. Elle a résisté aux insultes, aux menaces et aussi au machisme ordinaire. Avec nous, l'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été aussi la belle-fille de Simone Veil, donc on imagine que votre émotion ce matin à l'annonce de sa mort est aussi très intime.
Oui, c'est une double émotion évidemment, une émotion de citoyenne, parce que Simone Veil était une grande dame et un très grand serviteur de l'État. C'était une femme droite, tenace, et qui a énormément servi l'Europe et les droits des femmes. Donc c'est évidemment un exemple pour chaque citoyen. Et évidemment, à titre personnel, c'est très douloureux. Je pense que c'est elle qui m'a fait découvrir le service public, le service aux autres. Je crois que si je suis dans ce ministère aujourd'hui, c'est pour cette passion de la chose publique, de la politique dans son sens noble. Et je le vis un peu comme un passage de relais. Il me reste à être à la hauteur, ce qui est très difficile pour moi, évidemment. Je garderai en exemple sa droiture, sa force de conviction.
La France connaît la femme politique, vous le disiez, droite, avec une grande force de conviction. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi quelle grand-mère était Simone Veil, puisque c'était la grand-mère de vos enfants?
C'était une grand-mère très occupée, évidemment, et très, très protectrice, très chaleureuse. Elle organisait un dîner de famille ou un déjeuner de famille toutes les semaines pour nous voir, pour nous sentir, pour qu'on la soutienne et pour qu'elle nous soutienne. Elle était adorée, adorée de ses fils, adorée de ses belles-filles, ce qui n'est pas toujours facile. Une grande dame, tant sur le plan personnel que sur le plan de son image publique.
Comment vous aviez vécu à l'époque son grand combat sur l'IVG en 1974?
Alors, je ne la connaissais pas encore, j'étais trop jeune.
Est-ce que vous en avez déjà un souvenir? Parce que ça a été marquant quand même à cette époque-là. Ça a été un tel combat que même quand on était petit, on entendait parler. On savait que c'était une grande dame.
C'est vrai. On savait que c'était une grande dame, on savait qu'elle se battait pour les femmes. Ça faisait partie des débats qu'avaient les lycéens et les collégiens à l'époque. On en parlait énormément. Moi, ce que je retiens, c'est un courage extrême. Et un courage dans toutes les périodes de sa vie. C'est en ça que ça doit être un exemple aussi. Il faut avoir des convictions, même quand on est attaqué personnellement. Et les convictions, à un moment, sont entendues. Je retiens le courage et je retiens la droiture, vraiment ce sentiment de servir les autres.
En 1974, elle a changé la vie des femmes, Simone Veil, mais vous qui êtes aujourd'hui ministre de la Santé, est-ce que vous jugez que ce combat, il faut le poursuivre, qu'il n'est jamais gagné, que le droit à l'avortement, il peut toujours être menacé?
Tous les droits des femmes méritent d'être regardés de près et il faut une vigilance constante. Je pense que les femmes sont très maltraitées dans le monde. Heureusement, notre pays, prône l'égalité homme-femme, mais tous les pays ne le font pas. Et je crois que la régression, le risque de régression existe toujours. Donc je suis simplement vigilante et je resterai ferme sur tous les principes qui permettent aux femmes d'être libres.
Merci beaucoup. Merci Agnès Buzyn d'avoir rendu hommage à Simone Veil sur RTL. Merci.
Merci.
À nos côtés aussi en studio, quelqu'un qui la connaissait très très bien, Yvan Levaille. Bonjour.
Bonjour, oui. Simone Veil, publique, la femme politique, la femme de pouvoir, la femme puissante, et puis l'autre femme, la femme de la vie tout court, la mère de famille, la femme d'Antoine, la grand-mère, l'amie de Jacqueline Auriol, vous voyez, l'amie d'André Rousselet, ses voisins sur la Côte d'Azur. Donc on se retrouvait quelquefois en vacances et si je puis dire, et c'était un privilège de voir Simone Veil, le chignon des faits, car on a toujours vu cette femme belle, magnifique, bien habillée, élégante. Elle avait tout pour elle, Simone. C'était la femme vivante et je dirais même que c'était un arbre, quoi. Hein, vous l'avez dit, elle était droite, plantée dans le paysage français. Mais c'était pas un saule pleureur. Je dis ça parce que, ayant connu ce qu'elle avait connu, les camps de la mort, et jeune tout de même, elle aurait pu pleurer, elle a caché ses souffrances pendant longtemps pour vivre. Vous savez, je ne sais pas qui a dit « il est poli d'être gay ». Elle était gay, courageuse. Elle plaisantait et elle accompagnait les gens de toutes les classes sociales. Amie de Marceline Loridan, hein, qu'elle a connue dans un bloc à Auschwitz, mais aussi amie d'une gardienne d'immeuble qu'elle allait voir avec sa voiture ministérielle. Vous imaginez cela ? Elle allait la voir à Belleville-Ménilmontant.
Vous parliez justement de cette période de la déportation. 1944, c'est l'année qui va bouleverser l'existence de Simone Veil et la construire, Jean-Alphonse Richard.
Oui, ce 13 avril 1944, quand Simone Veil, sa sœur Madeleine et leur mère Yvonne quittent le camp de Drancy en région parisienne à bord d'un wagon plombé convoi 71 à destination de Auschwitz-Birkenau, c'est finalement son destin de femme, son avenir qu'elle s'apprête à écrire. Elle a 16 ans et demi, vient de passer son bac et jusque-là, son existence s'écoulait paisiblement à Nice sur la Côte d'Azur, la vie de la famille Jacob autour de André, le père architecte plutôt conservateur, et la mère Yvonne qui a des idées de gauche, partisane de la libération et du travail des femmes jusqu'à ce que l'occupation, les lois anti-juifs ne les rattrapent. Le 30 mars 1944, Simone est arrêtée dans la rue par deux officiers SS. Elle se fait appeler Simone Jacquier, mais elle est rapidement démasquée. Toute la famille Jacob est arrêtée par la Gestapo. Auschwitz-Birkenau pour les femmes, la Lituanie pour les hommes. Simone ne reverra plus jamais son père et son frère. Auschwitz, les trois femmes de la famille Jacob apprennent la survie dans cet enfer peuplé de morts en sursis où les ombres remplacent les vivants. Une lueur surgit parfois de la nuit. C'est cette petite voix qui, dans son dos, demande à Simone son âge, puis ajoute « Dis bien que tu as 18 ans et lui sauve la vie. C'est cette capot polonaise, ancienne prostituée, qui lui épargne un travail trop dur et une fin certaine. « Tu es trop jolie pour mourir ici », lui dit-elle. « Nous ne comprenions pas », a raconté plus tard Simone Veil. « Ce qui était en train de se produire à des dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. La mère de Simone ne survivra pas. C'est pour elle, après la guerre, qu'elle étudiera le droit, deviendra magistrate et se lancera dans la politique. Simone et sa sœur seront libérées le 18 janvier 1945, de retour dans une France qui voulait oublier la guerre et refusait d'écouter les survivants. Mais c'est pourtant bien ces 10 mois passés dans les ténèbres et ce numéro, 78-651, tatoué sur son bras puis sur son épée d'académicienne, qui guideront jusqu'au bout ses pas, ses paroles et ses actes.
Merci Jean-Alphonse. Et la Shoah, justement, Simone Veil en avait parlé sur RTL, c'était en 1995.
Je ne crois pas qu'on devienne meilleur. Je crois qu'une extrême souffrance risque au contraire de vous endurcir. Et je crois que ce que le camp nous a apporté aux uns et aux autres, c'est une prise de conscience de certaines formes de malheur. C'est d'abord l'humiliation. Et cette combien l'humiliation, ajoutée même à des souffrances physiques terribles, était quelque chose d'insupportable.
Vous souffrez toujours de cette période ?
Je crois que personne ne peut l'oublier, personne ne l'a vécu, et que on est même, je dirais, presque en permanence, toujours encore un peu au camp. On a des jours, on a l'impression, certains jours, qu'on n'a eu aucune occasion d'en penser, rien qui l'ait rappelé, ni un livre, ni un article, ni même une odeur ou une impression, que ce n'était tout à fait loin. Et puis on ne sait pas pourquoi, on en rêve. D'ailleurs, les cauchemars que l'on fait sont presque plus souvent des cauchemars liés à l'arrestation, au moment, au choc qu'on a eu, ou à des moments très particuliers. Je pense ce moment qui n'a pas été pour moi celui de la libération, mais celui de la Grande Marche, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est la libération par les soviétiques, mais qu'en réalité, presque tout le camp a été vidé le 18 janvier, et que d'ailleurs, beaucoup sont morts. On a marché 50-60 kilomètres, ouais. Et que même certains beaucoup plus, pendant des jours et des jours, et même des semaines, et que beaucoup sont morts.
Voilà, Simone Veil qui n'avait pas oublié cette humiliation subie dans les camps. À la fin de sa vie, débarrassée de toute fonction politique, elle avait choisi de consacrer l'essentiel de son énergie encore à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, créée en 2000. Une fondation chargée de transmettre ce souvenir aux générations futures et d'en améliorer la connaissance.
Vous écoutez RTL, il est 12h42, on marque une pause et ensuite la suite de cette édition spéciale hommage à Simone Veil.
RTL Midi, édition spéciale. Julien Cellier, Christelle Robière. RTL Midi, édition spéciale. Julien Cellier, Christelle Robière.
Et on poursuit l'hommage à Simone Veil, disparue ce matin à l'âge de 89 ans. On évoquait tout à l'heure la Shoah. Et c'est parce qu'elle avait connu justement l'innommable des camps qu'elle a passé sa vie à prêcher ensuite la réconciliation franco-allemande et à essayer de faire avancer l'Europe au point, Béatrice Adjadj, de devenir présidente du Parlement européen, élue au suffrage universel en 78.
Oui, Christelle, l'Europe lui paraissait être le meilleur moyen de bâtir un autre monde, justement, de surmonter toutes ses haines. Alors, en 79, elle accepte la proposition de Giscard et se présente aux premières élections européennes qui ont lieu au suffrage universel. Elle est élue députée pour la famille centriste, UDF, et surtout élue présidente du Parlement, tout un symbole, vous l'imaginez bien. Elle raconte d'ailleurs que dans l'esprit de Valéry Giscard d'Estaing, qu'une ancienne déportée accède à la présidence de ce nouveau Parlement lui paraissait être un signe de très bon augure pour l'avenir. Tout était inventé en 79. Dans son discours d'investiture, Simone Veil place d'ailleurs son espoir dans cette Europe qui ne compte que 9 pays, fixe 3 défis à relever, la paix, l'indépendance, la solidarité entre riches et pauvres, 3 défis toujours d'actualité. Pour Simone Veil, l'Europe était le grand dessein du 21e siècle, le meilleur antidote à la barbarie. Pour terminer, je voudrais juste vous rappeler une histoire d'ailleurs que Marceline Loridan, sa compagne d'Auschwitz, racontait. Vous parliez d'humiliation, tout est lié, l'Europe, les camps. Et Marceline Loridan racontait que quand Simone Veil allait dans un restaurant, elle volait souvent après les petites cuillères parce qu'elle se souvenait qu'à Auschwitz, elle devait laper sa soupe. Elle n'avait pas de cuillère pour manger, laper dans l'écuelle. Et c'était une sorte de traumatisme, enfin, quand on parle d'humiliation. Et donc, du coup, elle partait des restaurants avec les petites cuillères. Yvan, je ne sais pas si...
Yvan Levaille.
Oui, vous avez entendu cette histoire. Moi, je me souviens quand même qu'elle a croisé dans sa vie un certain nombre de crétins, dont un type qui un jour lui demande si son numéro matricule qu'elle a tatoué sur le bras, c'est son numéro de vestiaire. Et je trouve que lui infliger dans la vie des humiliations comme celle-là. Puis un député que Jean-Louis Borloo connaît, moi je ne veux pas dire son nom, mais qui au cours du débat sur l'interruption volontaire de grossesse, lui a dit, mais madame, vous voyez bien, c'est l'eugénisme, c'est la barbarie, c'est... Enfin, en gros, quoi, on allait tuer les bébés comme les nazis tuaient les bébés. Et dire ça à Simone Veil, c'était terrible. Et enfin, dernière chose que je veux dire, parce que les hommes n'ont pas été très gentils avec elle. Même les grands politiques n'ont pas été très aimables avec elle. Je parle pas seulement pour les centristes, mais bon, il y a un président de la République qui l'appelait Poussinette et qui l'aimait bien, mais il n'a pas choisi d'en faire la présidente du Conseil constitutionnel. Il aurait pu le faire. Moi, j'ai toujours regretté, je le dis, parce qu'on a la liberté de tout dire quand il y a quelqu'un tellement symbolique, tellement fort. Elle avait toutes les qualités pour être la première femme présidente de la République française. Mais croyez-moi, il y a beaucoup d'hommes qui se sont coalisés pour que ça n'arrive pas. Ou alors, plus tard. Enfin, elle meurt à 89 ans.
On va demander justement.
Mais elle aurait fait une formidable présidente de la République. Sous prétexte, simplement, je vais vous dire quel était leur argument. Elle a mauvais caractère.
Justement, Yvan Levin, et ça tombe bien parce que vous faisiez allusion à Jean-Louis Borloo qui est en studio avec nous. Bonjour, monsieur Borloo.
Oui, bonjour.
C'était quelqu'un d'important dans votre vie, quelqu'un qui avait été important aussi au moment où vous avez fondé l'UDI. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yvan Levin quand il dit que finalement les hommes ont été machos avec elle et qu'elle méritait mieux que ça?
Oui, enfin, pas mal d'hommes ont été crétins, injurieux, blessants. Je me souviens de ces magnétophones dans les salles avec des cris d'enfants. Bouleversé complètement, mais quand on regarde rétrospectivement, c'est absolument affligeant.
Ça a été un combat d'une violence inouïe. 1974, on a oublié ça.
Mais c'est fou, il faut ressortir, revoir les images, c'est absolument fou. Je veux dire, ce qui est le plus important, je n'ai jamais entendu Simone Veil faire la leçon à quiconque. Elle ne faisait pas la leçon, elle montrait l'exemple. Elle ne se drapait pas dans ce drame de la Shoah. Elle en parlait avec beaucoup de douceur, de tranquillité. Et au fond, Simone, plus que l'humiliation, c'est la haine de la souffrance faite aux êtres humains. Et au fond, tous les combats sont liés. Ce combat pour la réconciliation franco-allemande, parce qu'elle était convaincue, et Antoine, son mari aussi, que cette Europe qui est tellement conflictuelle pendant des siècles, qui a connu la plus grande boucherie de l'humanité, il y a un endroit, deux peuples, s'ils s'aiment et s'ils se respectent, ils pourront empêcher ces boucheries.
Justement, Jean-Louis Borloo, je vous propose de l'écouter, Simone Veil. Vous le disiez, elle n'avait pas d'esprit de revanche. Elle a porté ce combat de l'Europe unie et du couple franco-allemand tout au long de sa vie. Elle avait été élue à la présidence du Parlement européen en 1979 et 30 ans plus tard, lors de son entrée à l'Académie en 2010, lors de son discours, elle vantait justement l'importance des relations entre Paris et Berlin.
Les pères de l'Europe ont voulu construire une réalité à partir du rêve d'un homme dont la voix a retenti nombre de fois sous cette coupole. J'ai nommé Victor Hugo. En 1841, fraîchement élu à l'Académie, il se consacre à la rédaction d'un texte sur le Rhin où il ébauche le projet d'une Union européenne fondée sur ce qu'il est convenu aujourd'hui de nommer le couple franco-allemand. Il écrit « La France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe. L'Allemagne est le cœur, la France est la tête. Le sentiment et la pensée, c'est tout l'homme civilisé. Il y a entre les deux peuples connexion intime, consanguinité incontestable. Ils sortent des mêmes sources, ils ont lutté ensemble contre les Romains, ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir. Fraternité et avenir, sous l'égide de ces beaux mots qui ont naturellement chez vous, je suis fier d'être reçu par votre compagnie. »
Un petit commentaire, Jean-Louis Borloo, sur ce que vous venez d'entendre et sur cet engagement viscéral pour la construction européenne et la réconciliation franco-allemande.
Oui, j'ai entendu il y a pas si enfin, 4-5 ans, un long petit déjeuner où elle me disait « Mais nous sommes devenus indifférents aux Allemands et les Allemands à nous-mêmes. » Et ça, ça l'a terrorisée. Parce qu'elle, c'était pas le coup franco-allemand économique, c'était pas le coup franco-allemand institutionnel. C'était l'Institut Goethe. C'était qu'on parle nos langues, c'était qu'on par la musique, par la culture, par la tendresse, par les échanges. Et ça, ça l'a terrorisée. Parce qu'elle me dit, un jour ou l'autre, si on continue à s'éloigner, à être des cousins de plus en plus indifférents les uns et les autres, ce grand bouillonnement complexe qu'est l'Europe peut retomber dans un chaos épouvantable.
Il a tellement raison, Jean-Louis Borloo. Moi, je veux ajouter une chose sur la douceur de cette femme. Elle était contre les grands procès qu'on a fait aux collabos, vous voyez, et aux autres. À Barbie, elle n'aimait pas le chagrin et la pitié, elle avait détesté. Et c'était incompréhensible. On disait, mais comment? Vous voulez pas qu'on rattrape les traîtres, les horribles bons hommes qui vous ont conduit dans les camps, qui vous ont emmené? Et elle disait, non, et à l'opposé. Elle disait, il y a une partie de la France qui s'est remarquablement conduite avec les Juifs, et ce sont les justes, et ce sont les justes qu'il faut valoriser. Les autres, laissez-les mourir.
Yvan Levaille, Jean-Louis Borloo, vous restez avec nous en studio. On poursuit l'édition spéciale sur RTL, hommage à Simone Veil dans un instant. On va essayer de comprendre pourquoi elle était si appréciée des Français, puisqu'elle fut la femme politique la plus populaire de notre pays pendant de longues années.
Christelle Rebière, Julien Cellier, RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale. Julien Cellier, Christelle Rebière.
Et nous poursuivons notre hommage à Simone Veil qui s'est éteinte ce matin à l'âge de 89 ans. Et c'est vrai qu'alors que les Français ne sont pas tendres avec les politiques, eh bien elle a une cote de popularité absolument exceptionnelle. Depuis la loi sur l'avortement, les Français, Olivier Bost, la chérissent avec ses idées centristes qui ne les ont jamais heurtées au fond.
Oui, en fait, ce qui a guidé et marqué la vie politique de Simone Veil, ce n'est pas un positionnement, une étiquette ou même un clivage. Avant tout, elle s'est battue pour la liberté et pour la paix, bien avant d'être centriste ou de centre-droit. Et c'est de là que vient cette exceptionnelle popularité. Alors, dans ses combats pour la liberté, tout le monde retiendra bien sûr son combat pour l'IVG. On l'évoquait devant une assemblée masculine et misogyne, rétrograde. Elle a défendu et fait adopter le droit à l'avortement en 1974, avec le soutien très important, et il le rappelle souvent, le soutien du chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing. Ministre de la Santé, elle le sera encore entre 1993 et 1995. Et l'autre combat de Simone Veil, bien sûr, ce fut l'Europe, pour la réconciliation franco-allemande, on l'évoquait, pour la paix. De 1979 à 1982, elle a été la première présidente du Parlement européen. Simone Veil, en fait, n'a jamais mené de carrière politique qu'on pourrait dire classique, ou même d'apparatchik. Les partis, le rapport au pouvoir dans les partis lui importait peu. Elle a adhéré seulement 2 ans à l'UDF. Et Simone Veil a soutenu Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2007. Et son dernier acte vraiment politique, ce fut symboliquement, eh bien, de recevoir la première carte d'adhérent à l'UDI, le parti centriste de Jean-Louis Borloo.
C'était en 2012, Jean-Louis Borloo. Pourquoi vous aviez choisi de lui conserver, de lui garder le privilège d'avoir la carte numéro 1 de l'UDI?
Mais parce que c'est elle qui m'avait dit qu'il fallait faire ce parti. Chez elle, place Vauban, avec Antoine, avec toute la famille, en disant, mais tu sais Jean-Louis, on est dans un monde qui est en train de perdre les solidarités. On est dans un monde sur lequel les souffrances ne sont plus visibles. On est dans un monde qui est devenu extrêmement matériel. On est dans un monde où l'Europe est devenue un peu une Europe économique et pas assez une Europe de l'amour, de la fraternité, de l'échange et de la culture. Donc sois gentil, Jean-Louis, vas-y, prends le relais, avance.
Et c'est vrai qu'elle avait cette hauteur qui faisait qu'elle ne faisait jamais de politique politicienne au mauvais sens du terme.
Et puis je vais vous dire... un célèbre scénario, elle faisait pas de phrases. Au fond, sa puissance de conviction était une économie de mots. Il n'y avait pas de grandes envolées. C'était précis.
Ah, c'était pas une oratrice.
C'était chirurgical. Non, mais il n'y avait même pas d'empathie, même dans une conversation d'emphase, je veux dire, pas d'empathie, si, bien sûr. Mais c'était extraordinaire parce que c'était comme son regard. Il était à la fois magnifique, mais en même temps efficace. Hein, et c'était une beauté qui vous embarquait, mais en même temps vous tenait à distance. Et c'était vraiment la cause. Au fond, elle ne s'est jamais présentée ou conçue comme une grande dame, mais comme une dame au service d'autres causes. C'est fondamentalement ça. Il n'y avait aucun caractère autocentré chez Simone. En aucun cas.
Mais bon. C'était la leçon du retour de l'enfer. Quand on est adolescente et qu'on va en enfer, parce que Auschwitz-Birkenau, c'était l'enfer, et qu'on revient, et on monte les escaliers de la gloire, l'ascension de Simone Veil, ça a été quelque chose quand même. Eh bien, quand on est en haut, on sait que cette puissance-là est d'une fragilité extraordinaire, si les hommes et les femmes de l'Europe ne sont pas sages.
Yvan Levaille, Jean-Louis Borloo, vous restez avec nous. L'édition spéciale continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur RTL pour rendre hommage à Simone Veil.
Christelle Robière, Julien Cellier, RTL Midi, édition spéciale.